Harper, Ben Harper, détrompez-vous, c'est juste un homonyme et il s'agit bien ici d'une femme, arrive en Ford bleu dans un petit bed and breakfast de la campagne anglaise, très bien noté sur la fourchette. Accueillie par un homme aux dents longues, elle a choisi de s'isoler loin de la ville pour se remettre d'un drame, le suicide de son mari, qui a jump over the balcony sur l'air de « It's raining men » de Jerry Halliwell. Et ça, ça a de quoi marquer pour sûr. Elle basculera dans l'horreur quand elle découvrira que l'hôte de maison n'est autre qu'Arturo Brachetti, les plus grands transformistes que le monde ait porté. Sauf que là, Arturo, il lui en veut grave. Et il l'effraiera en se déguisant tour à tour en un prêtre pervers culpabilisant, un gamin joueur inquiétant au visage uncanny, c'est une très grande performance d'Arturo d'ailleurs, en policier stupide et en tout plein d'autres bouseux flippants. Son but à Arturo ? Foutre la frousse à notre veuve en apparition nocturne, course-poursuite terrifiante et aussi en secouant les pommiers du jardin. Arturo serait-il le diable ? Ben Harper serait-elle en enfer ? Au purgatoire ? Ou bien, avec tous ces hommes qui se ressemblent et oppressent la seule femme du village, est-ce simplement une interprétation bobo auteuriste des Schtroumpfs ? Mystère, mystère. Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée après cette fête des films avec la BA du dernier Alex Garland dans l'épisode 89. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai ? Douille ou pas douille ? Nos avis et ceux de la presse. C'est parti pour le match retour de Men. DJ,
kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus ?
Je ressens les blessures. La douleur est une simple information.
Votre discours était très éclairant.
Très éclairant ? C'est du blabla, oui.
T'intéresses à qui ? T'intéresses à quoi, toi ? Est-ce que t'en as de la considération ?
Tu déconnes, non ? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de techniques. T'es nul !
Bonjour et bienvenue dans le match retour de Men, le troisième film d'Alex Garland après Annihilation et Ex Machina. Après vous avoir exposé nos attentes autour de sa bande-annonce, sont avec moi autour de la table pour revenir en avis sur ce film, ma team de couilles. Oui, car c'est le comble dans notre planning aujourd'hui, il ne nous permet pas d'avoir Clémence, Marion ou Johanna autour des micros. Et non, et ce n'est pas la force du patriarcat et du mal dominant, on vous l'assure, elles sont prises par le travail. On restera du coup entre belles couilles.
Mais le travail n'est-ce pas un reflet du patriarcat ?
Ça fait 2, 4, 6, 7 couilles.
Pendant que nous, on garde les gosses à la maison, et
sept.
Oui. Non mais on est avant-gardiste ici, c'est ça qu'il faut dire à Fetaber, on est avant-gardiste.
Je respecte le lore, j'ai qu'une couille.
Non mais ça va être un peu dommage de ne pas avoir du coup la vision d'une femme, écoutez, on va essayer de s'en approcher le plus. C'est pour ça que j'ai mis une robe aujourd'hui, ça ne tient pas en couille.
Ça devient flippant en direct.
Bref, souvenez-vous, on vous avait fait une intro d'escroc dans l'épisode bande-annonce, alors là on avait été des escrocs quoi, fin de saison... Rien fait, carrément pas travaillé.
Hyper bien fait.
Avec un Romain qui jouait tous les rôles masculins dans notre podcast. Et franchement, on s'excuse platement, auditeurs, auditrices, on s'excuse. Bref, elles sont là, nos couilles du podcast. Avec moi, Kevin qui est là. Salut Kevin.
Bonjour à tous, bonjour à toutes.
Il a une bonne grosse couille. Clément aussi est là. Salut Clément. Clément et William.
Hello, bonsoir voilà. À tous.
Que de la barbe autour de la table. Alors on va se lancer nous dans notre critique évidemment comme d'habitude de Men d'Alex Garland, mais avant toute chose on va préciser à nos auditeurs, auditrices où est-ce qu'on va situer en termes de spoil pour cet épisode.
Salut les couilles.
Hey, le calculateur.
Bonjour le calculateur.
Ça va ou quoi le calculateur?
Ça va ma couille.
Ça va ma couille.
Ah oui, bien placé.
Ça va et toi?
Ça va bien.
Alors,
moi, je peux être neutre car je suis ni homme ni femme.
C'est vrai.
Très tu es bien l'analyse.
Une machine. En termes de spoil, alors, où est-ce qu'on va être pour cet épisode ?
Pour Men, nous allons spoiler à hauteur de 100%.
Ah, ben oui.
Wow !
Tout le film.
Tu vas parler comme ça tout le temps, Kevin.
Bienvenue, tu te de guerre.
Ouais, allez, 100%. Non, mais oui, obligé, pas le choix avec ce film-là.
Et oui, car il y a des coups de théâtre, des révélations.
N'est-ce pas, Scooby-Doo ? on va être obligé, bien sûr. Donc, si vous n'avez pas vu le film, vous pouvez mettre pause, aller voir le film et revenir ensuite.
Et reappuyer sur lecture.
Voilà. Ou bien vous en foutez complètement, ou bien vous l'avez vu le film et du coup vous allez vous délecter de notre critique et analyse autour de ce film à tiroir, j'ai envie de dire. Aïe, aïe, aïe. Mais avant toute chose, il va falloir qu'on résume la vraie histoire de la vraie réalité. Parce que ce qu'on avait imaginé, Ben Harper, Arturo Brachetti et tout...
Ils ne sont pas dans le film.
Très déçus.
C'était pas ça.
Très déçus.
Il n'est même pas italien.
C'est aucune douille.
Très déçus. On va donc lancer, évidemment, vous le savez, comme chaque semaine, la roue de la chance qui va nous permettre de déterminer qui aura la tâche, la lourde tâche de résumer le film. Et El Calculateur, c'est toi qui la lance.
Allez, je la lance. C'est parti, les amis.
Wouhou.
Et on repart à gauche. Romain.
Yes.
Bonne chance.
Cool, cool, cool. Je devrais pouvoir y arriver, normalement. Alors... j'appelle l'esprit de synthèse, s'il te plaît, réponds-moi.
Bonjour, je vais t'aider.
Je veux mon aide, Romain.
Merci, esprit de synthèse. Écoutez, Harper, c'est simplement Jesse Buckley. Harper se rend dans la campagne anglaise, dans une petite maison qu'elle a louée.
Cottage.
Voilà, une maison très sympathique, perdue dans la campagne anglaise, dans le village de Cotson, si je dis pas de conneries.
Cotson,
n'est-ce pas? Donc elle se rend avec sa petite Ford Fiesta bleue là-bas, et elle y rencontre ce premier gars qui s'appelle, je sais même plus comment il s'appelle.
Geoffrey,
qui est le propriétaire de la maison. En fait, c'est comme un Airbnb, quoi. Il lui passe les clés, il lui fait la visite. Et puis voilà, on se rend compte au fur et à mesure du film que.
Les
clés,
il lui passe la grosse clé en fer de 3,5 kg, tu sais.
Fort Boyard. Une bonne grosse maison bien vieille, hein, qui a plus de 500 ans, qui a du Shakespeare presque
Shakespeare.
Dans ses murs. Shakespeare.
Oh, donc, Marlowe, Christopher Marlowe. Harper Harlowe. Oh là
là.
Pardon.
Brilliant analysis.
Analyse en direct.
Excusez-moi.
Et du coup, en fait, on se rend compte qu'elle est là aussi pour prendre du temps pour elle, parce qu'elle a subi un gros drame qui est la mort de son mari, en fait, avec qui elle voulait divorcer, justement, sur une dispute de divorce, parce que lui ne voulait pas divorcer, il voulait la retenir absolument, il voulait qu'elle l'aime. Il a fini par se défenestrer et il est mort devant ses yeux.
Petit pervers narcissique, quand même.
Non, oui, clairement, totalement. Et donc, du coup, en fait, elle va rester dans ce village-là jusqu'à que des événements étranges se produisent. Lors d'une balade, notamment, elle va tomber sur un tunnel où elle va se fasciner un peu devant ce tunnel. Il y aura une très très belle séquence d'écho qui va finir en musique, parce que c'est une musicienne aussi, il faut le préciser. Et à partir de là,
on a l'impression qu'elle réveille un esprit, quoi.
On a l'impression qu'elle réveille un truc dans ce village-là un peu perdu, et tous les hommes vont un peu se liguer contre elle et vont la faire culpabiliser à mort en lui disant c'est ta faute si ton mari est mort, sois responsable et voilà quoi.
Et assume.
Et voilà, et évidemment les codes de l'horreur vont s'en mêler, ils vont commencer à la poursuivre, à sa pénétrer chez elle. Alors évidemment, on se détache très doucement en fait de la réalité jusqu'à qu'on sombre un peu dans le surnaturel et le fantastique, plein de symbolisme. Et il va se produire évidemment des choses vraiment pas très catholiques, hein, vraiment pas ouf pour elle. Et il s'avère qu'évidemment c'est Rory Kinnear qui tient un peu tous les rôles. Il doit y avoir 4, 5, 6 rôles où on le voit vraiment. Mais surtout 4 principaux en fait.
Oui, il y a 4 vrais rôles incarnés, puis après il y a 2-3 rôles secondaires un peu au loin.
Voilà, il y a un prêtre un peu perturbé, justement, qui n'arrête pas de la culpabiliser.
Il y a un enfant insolent qui mérite des tartes.
Voilà, qui veut jouer à cache-cache. Il y a notamment l'hôte de maison.
Geoffrey.
Il y a un vieux fou, Clodo, perdu, tout nu, qui se transforme en arbre.
Qui a un peu cet esprit qu'elle réveille dans le tunnel.
Et elle tient.
C'est un faune.
Voilà, elle est en contact avec une copine à elle par visio, à qui elle raconte tout et qui s'inquiète aussi. Voilà, je pense que j'ai tout raconté, plus ou moins, je ne vais pas plus rentrer dans les détails.
C'était bien résumé.
On va rentrer dans les détails en critique, si vous le voulez bien. Nous avons fait sa BA, nous, la semaine dernière. Qu'en est-il vraiment? Est-ce que cette BA a été fidèle au film? Il va falloir qu'on compare les deux avec le Do You Panouille.
C'était une douille. C'était pas une douille.
Le douille ou pas douille, on compare l'ABA qu'on avait analysé avec le film. Est-ce que le produit final a bien été vendu ou bien on s'est fait simplement douiller? N'est-ce pas?
Comme
c'est le
David.
Concept. C'est le concept. Et ensuite, on bascule évidemment dans nos critiques les plus avisées.
On essaye en tout cas.
D'habitude, on fait des critiques avinées. Mais... Non, on fait des critiques
avisées. Là, c'est biré.
Je vais commencer à ma gauche. William, douille ou pas douille?
Je crois que je dirais pas douille. Ça ressemble à peu près à ce à quoi je m'attendais. La bande-annonce était plutôt fidèle au visuel, au ressenti global que j'ai eu, tu vois. Padouille, mais padouille non plus ultra positive, plutôt padouille mitigée.
Ah ouais, t'es plus mitigé, sans plus.
Ouais,
quoi.
Ouais, plus mitigé, je dirais ce qui m'a plu dans le film, et j'ai l'impression d'être passé à côté.
Ça t'en a touché une sans bouger l'autre, comme on dit dans le terre-terre.
Ouais, oui,
la chance, j'en ai qu'une.
C'est vrai qu'il a qu'une couille.
Ça l'a pas touché, du coup.
Moi, j'ai essayé.
Non, voilà, plutôt mitigé, mais padouille, je dirais.
Padouille. Clément, douille ou padouille?
Padouille. Je dirais pas douille positive parce que le film, la BA vendait assez bien l'ambiance du film, c'est assez fidèle. Après, moi, j'attendais un twist qui n'y a pas vraiment. Donc, le film m'a beaucoup plu, la BA était fidèle, je dirais pas douille.
Oh, tu devais te douter que c'était par Turo quand même à la fin.
Non, ça je m'en doutais.
Ça, c'est la petite déception. J'avoue, on glissera l'idée avec Garland pour son prochain film, s'il en fait un. Kevin, douille ou pas douille?
Bah douille, y a pas de schtroumpf.
C'est vrai.
Bah, je suis désolé, douille.
Arturo, pas de schtroumpf.
Sinon, j'ai pas bleu.
C'est une grosse douille. Non, bah, je sais pas, c'est douille mythique. Après, moi, je vous avoue que j'ai eu un SDA, je m'attendais à quelque chose d'autre. Ce que le film m'a pas donné, le film reste quand même assez ouvert à l'interprétation, j'ai l'impression, même si bon, le message est quand même assez clair. Mais j'avais l'impression avec la BA que, et comme il y avait pas mal de plans sur la divinité un peu sylvestre, il y aurait plus de liens avec le folklore anglais celtique, qui doit être là, mais de manière un peu cachée et pas explicite. Du coup, en fait, la créature, on n'a jamais son nom et elle est purement symbolique, du coup. Et je pensais qu'il allait plus rentrer dans le fantastique pur jus et nous dire, bah voilà, effectivement, il y a du symbolisme, mais cette créature est dans le panthéon celtique.
C'est vrai,
voilà.
Que ça aurait pu.
Mais donc, il n'y a pas ça. Après, globalement, le film a quand même un peu déçu, mais je reparlerai dans mon avis.
Dans ton avis.
Et toi, Romain?
Douille ou pas douille?
Ouais.
Écoutez, j'ai envie de dire... comment on appelle ça? Douille positive, en fait, parce que le film m'a douillé, parce que j'ai trouvé le film encore mieux que la BA. Parce qu'on s'était fait beaucoup de films, nous, sur cette BA. Et au final, le film m'a vachement surpris. Au point que j'en ai fait une analyse, carrément, parce que c'est un film qui m'a parlé et dont le sous-texte m'a sauté aux yeux. Et en travaillant un peu tout l'après-midi, j'ai réussi à relier des trucs. Et je me sens un peu comme la théorie de Graham là, sur YouTube. Ça y est, je me sens pousser des ailes.
Bah oui, je vois, t'as 60 pages devant toi.
Tu es un exégète.
J'ai quand même un truc de 3 pages. Vraiment. Est-ce que vous voulez que je me lance d'abord dans mon avis ou que vous voulez avoir ma théorie à la fin?
Faisons monter la tension, laissons-le parler à la fin.
C'est
comme
pas
ça.
Vraiment une théorie, c'est plus une analyse. Donc.
Ok, mais comme tu veux.
Bah alors, Kevin, toi qui es le plus douillé du coup par le film, on va te laisser commencer.
Bah écoute. C'est un film qui est quand même dense, même si je suis globalement déçu. C'est un film, je trouve que c'est compliqué de résumer son avis succinctement. Donc je vais commencer déjà par ce que j'ai aimé dans le film. Déjà, j'ai beaucoup aimé la mise en scène, j'ai beaucoup aimé la photo, j'ai beaucoup aimé la musique. Je trouve que la construction du thème avec les échos, avec la voix purement féminine, c'est très beau. C'est une excellente idée. En plus, c'est mis intradiégétiquement au début avec le tunnel, et je trouve que voilà, c'est vraiment malin. Ensuite, bah, je suis un peu déçu parce que bon, le thème du film, c'est grosso modo, hein, je résume et je grossis le trait, c'est la masculinité toxique qui a plusieurs visages, qui sont représentés chacun par un des rôles de, j'ai oublié le nom de l'acteur, mais
Rory Kinney.
Avec Rory Kinney, of course, man. Avec le prêtre qui est en fait un peu donneur de leçons, mais aussi libidineux, donc avec une forme un petit peu déviée. De la figure du clergé, avec le gamin aussi qui est très insolent, irrespectueux, avec tous les mecs un peu au loin qui sont dans le pub, dont un qui est un peu un agresseur sexuel parce qu'il l'agresse à un moment dans le film, même si on le voit pas beaucoup dans ce rôle-là. Toutes ces figures des masculinités toxiques qui l'entourent, avec en plus ce deuil qui la travaille, où elle se sent à la fois coupable, mais en sachant au fond d'elle qu'elle n'a pas de raison de l'être, parce qu'elle voulait juste... pas affirmer sa liberté et que son mec était clairement un pervers narcissique, hein, il la menace de suicide, de se suicider lui si jamais elle le quitte, etc. Donc je trouve que le thème est hyper intéressant, surtout que le traiter par le prisme de l'horreur, je trouve que c'est vraiment une bonne idée. Mais j'ai trouvé malheureusement que dans l'écriture ça manquait, je trouve que ça manque de finesse dans l'imagerie, dans le symbolisme que je trouve un peu trop grossier. Même si je comprends, enfin j'ai l'impression d'avoir compris ce que le film veut me dire, j'ai l'impression que le film parle justement de la culpabilisation pardon, qu'on fait aux femmes parfois en leur disant bah écoute, si je suis malheureux c'est de ta faute, moi tout ce que je veux c'est de l'amour, si je me suis comporté ainsi, c'est toutes les excuses qu'on entend des agresseurs, des pervers narcissiques divers quoi, et avec ce visage multiple des masculinités toxiques. Et l'idée que finalement on ne peut pas s'en défaire, il y a quand même une séquence de fin, où moi je l'interprète comme ça, on est à 100% de spoil donc désolé, où il y a la créature qui est cet homme multiple là qui n'arrête pas d'accoucher de lui-même, des différentes versions de lui-même, jusqu'à arriver enfin par devenir le mari décédé. Où effectivement on comprend que c'est une histoire de hantise, de culpabilité, où là elle fait tout le chemin psychanalytique pour arriver à s'en débarrasser. Et ben je trouve que cette image, elle renvoie quand même à un truc que je trouve bizarre, et j'ai pas pu m'empêcher, et j'en parlais avec Clémence, de trouver que c'était un film quand même d'homme, quoi, qui avait été écrit par un homme et qui avait quand même ce petit côté, moi j'ai ressenti comme ça, un peu rance de, au fond, c'est pas de leur faute, ils voulaient être aimés, quoi. Au fond, on est un peu au fond. Oui, ben après vous discuterez.
Oui, tu parles du message que délivre du coup oui. L'avatar de son mari à la fin qui dit j'attendais que tout simplement d'une chose
c'est
que tu
m'aimes. C'est un peu ça, voilà. Et j'ai l'impression que c'est un peu maladroit. Après, peut-être que c'est pas exactement ce qu'il voulait dire, mais enfin moi je l'ai pris comme un truc un peu maladroit, un peu puéril. J'ai vraiment eu la sensation de quelqu'un qui a voulu faire un film intelligent, et Alex Garland est un mec intelligent, je dis pas le contraire, hein. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il s'est laissé dépasser par le sujet, qu'il était peut-être biaisé aussi par son propre point de vue. Je sais pas, en fait c'est il y a que les femmes qui peuvent parler de ce sujet-là, parce que c'est pas tout ce que je pense, mais j'ai l'impression que pour le coup il a été trop dans sa masculinité à lui quand il a raconté son histoire. Et pour moi, ça manque un peu, de justesse et ça devient un peu gros sabot. Surtout qu'il y a tout un truc sur le symbolisme, sur le fait que c'est séculaire en fait, cette relation-là, avec tout le temps ces plans sur le dieu qui a deux visages, le pur masculin et le pur féminin. D'ailleurs, et avec cette transformation justement de l'homme nu qui est donc on va dire l'homme entre guillemets, je veux dire alpha pour de l'origine quoi, originelle, qui se transforme progressivement en arbre, comme déjà il y a l'imagerie forcément païenne, mais aussi le côté naturel, c'est séculaire, c'est la racine de quelque chose, ouais. Et c'est quelque chose qui est tellement ancré et vieux et ancien et implanté dans nos esprits que c'est quelque chose qu'on ne peut pas changer en fait. Et je suis mitigé aussi sur le message, parce que autant je trouve qu'il y a de la justesse dans l'analyse, autant je trouve que
dans la forme, c'est peut-être pas ça.
Ouais, et puis mais dans la forme, c'est pas ça. Et je trouve parfois que c'est trop gros sabot, que ça aurait mérité, un peu plus de recul, un peu plus de double interprétation peut-être. Je sais pas. Il y a un truc qui me gêne dans le film.
Est-ce que tu crois que c'est mono-interprétation et qu'on peut pas...
Si, je pense que chacun peut faire son interprétation. Mais après, comme moi, la manière dont j'ai reçu le film et dans les divers indices qu'il y a dans le film, j'ai l'impression qu'il y a quand même un message qui est clair. Et que c'est celui-là, que la masculinité est comme elle est parce qu'elle est comme ça depuis le début et qu'en fait on fait que reproduire le même schéma en permanence parce qu'il y a ce manque d'amour, ce qui entraîne la culpabilisation des femmes, et c'est un cercle vicieux. J'ai l'impression que c'est ça le message du film au fond, mais je trouve ça trop grossier. Et j'aurais aimé peut-être que le fantastique se fasse plus présent au premier degré avec une vraie créature pour symboliser ce truc là pour que dans la narration en fait le symbolisme passe mieux, parce que là je trouve qu'à force de trop en faire sans te donner un truc où te raccrocher en tant que spectateur, le message marche moins et perd en finesse, je trouve.
William, tu veux rebondir peut-être là-dessus ?
Ouais, alors moi je vais être un peu moins sévère que Kevin. J'ai pas eu du tout toute l'analyse qu'il a eue, notamment parce qu'il y a ce dernier plan où on la voit quand même libérée, qui pour moi vient contredire un petit peu justement ce discours.
Qui apporte un peu de confusion, moi, si je trouve.
Voilà, je trouve que peut-être que ce film arrive un peu tard en fait. Il a un discours en fait qui est légèrement, comme dit Kevin, un peu mal dégrossi. S'il était sorti il y a 10 ans, ça aurait été sûrement quelque chose de précurseur. Là, il arrive 10 ans un peu en retard, je dirais, où on est un peu plus dans la nuance, on arrive à déceler des mécanismes un peu plus précis de ce que peut être le masculinisme ou la virilité un peu exacerbée, merdique, tu vois. Donc peut-être que ce film est légèrement en retard. S'il était sorti il y a 5 ans, il aurait peut-être été beaucoup plus percutant. Aujourd'hui, je me sens un peu plus alerte par rapport à ces sujets, donc je suis un peu moins touché émotionnellement par le film. Donc j'ai pas trop parlé de cette partie-là, puisque moi, personnellement, je me suis pas trop senti... happé par l'histoire de Harper, ni par l'histoire d'ailleurs du mari qui s'exprime à travers tous ces avatars de la masculinité. Donc j'ai plutôt parlé du côté technique, moi, de l'œuvre, qui est sûrement la chose qui m'a le plus plu. Je trouve que le film, il est magnifique. Alors déjà, je trouve la photo incroyable.
Ouais, elle est ouf.
La photo est incroyable, que ça soit dans l'exposition de plans nature qui se veulent comme des tableaux, que ça soit dans cette manière de présenter les lieux en faisant des zooms lents en avant, comme si tu rentrais dans un tableau. Pareil, encore une fois, il y a vraiment le côté très pictural de l'œuvre qui est présente, qui, moi, me touche particulièrement. Il a cette manière aussi de faire une focale, en fait, de jouer sur le flou entre les personnages et l'arrière-plan, et de jouer avec ça, justement, entre le moment où elle prend conscience, où elle s'éloigne de sa culpabilité, on est moins dans le flou, et puis dès qu'elle commence à redouter d'elle, de son opinion, ou que quelqu'un essaie de la faire douter d'elle, tout d'un coup, hop, on voit que ça se refloute un petit peu. Et il y a, moi, au départ, je me suis dit qu'il fait ça que techniquement à la focale sur la caméra, mais en fait, après coup, il y a dû avoir un peu de traitement en post-production, et je trouve ça discret, et c'est parfait.
Fait habiter aussi son arrière-plan.
Oui, bien sûr.
Il y a plein
sûr.
De moments où le personnage...
On le voit, oui, on le voit. Et c'est bien parce que ça pourrait être des séquences un petit peu longuettes, un petit peu trop d'exposition autour du personnage. Et il arrive comme ça à nous divertir grâce à un petit passage de personnage vers l'arrière, ou une musique qui revient, un écho qui bouge. Enfin voilà, dans l'ensemble, j'ai trouvé que techniquement, c'était extrêmement abouti. Grosse félicitations aux deux acteurs principaux qui sont que ça soit Jesse Buckley ou Rory Kinnear. Alors pour le coup, moi par exemple, il y a quelques années, il y avait eu un film là, Split avec McAvoy où il avait interprété plein de personnages différents et ça m'avait pas beaucoup touché parce que j'avais trouvé que comme ces persos étaient très caricaturaux, il était presque pas facile pour un acteur, mais presque trop évident qu'il allait y arriver. Là, je trouve que c'est toujours dans la subtilité au niveau de ses persos. C'est dans une posture, dans une manière de finir une fin de phrase, dans une manière de rythmer aussi les mots qui vont sortir. Et en bougeant légèrement les accents, qui fait que tous ces persos se ressemblent sans jamais être identiques. Et là-dessus, moi, je trouve que le travail, il est incroyable. Vraiment, je l'ai trouvé ça fabuleux. Donc, pour l'aspect technique, moi, je dis un grand bravo au niveau du film. Pour l'aspect philosophique et rhétorique autour du discours masculiniste, je suis un peu passé à côté. Bon, il y a toute cette séquence de fin où il accouche de lui-même, là, enfin, où le mâle accouche de lui-même. J'ai trouvé ça perturbant, quoi qu'il arrive. Je trouve que c'est une réussite, parce qu'au moins, c'est...
Visuellement,
visuellement, c'est innovant. On nous propose quelque chose, voilà, quelqu'un qui s'enfante de lui-même, avec de la douleur, avec du sang, avec tout ce que ça peut avoir de répugnant et de gênant. Et voilà, donc
et la musique qui va avec aussi.
Et la musique qui va avec, bien entendu.
Il y a une musique ambiante qui colle parfaitement en scène.
Donc dans l'ensemble, je passe un peu à côté du film, mais j'en ai plutôt
ressenti.
Voilà, j'ai un bon ressenti par rapport au film. Je le reverrai pas, je pense pas. Mais j'ai pas passé un mauvais moment. Je suis pas aussi emballé que peut-être les deux suivants qui vont parler après moi. Mais en tout cas. Voilà, allez le voir, ça vaut quand même le coup, en tout cas.
Bah, tant mieux, en tout cas, t'as dit tout ce qui est technique et tout, on n'aura pas besoin de rebondir là-dessus, je pense qu'on est tous d'accord, c'est vrai que le film, il est magnifique. La photo, moi j'adore la manière dont il a filmé la forêt, ça se ressentait aussi un peu dans Annihilation, où il a cette manière un peu de saturer les lumières, ce qu'il faut, le vert surtout, le vert des feuilles.
Comme il joue avec l'ombre en plus, ça fonctionne, il joue avec les ombres mouvantes,
mais
donc forcément...
Ça, c'est très...
Les reflets,
c'est
les fleurs qui ressortent.
C'est très Danny Boyle, ça, hein.
Ah bah,
tu sens qu'ils sont bossés ensemble, quoi. Au début j'allais dire c'est très anglais, mais en fait c'est très Danny Boyle.
Elle se balade à un moment dans un petit champ de fleurs, c'est des fleurs violettes, c'est trop beau. C'est trop beau, on dirait des petites étoiles.
C'est le côté bucolique. En vrai, moi les scènes que j'ai préférées, c'est les scènes de forêt, quoi, je crois. Où vraiment j'avais ce côté liberté là, je sais pas ça. Après c'est peut-être à force d'être à Paris où j'en peux plus là.
c'est super bien.
Ça m'a bien.
30 degrés, sa grand-mère. Trop chaud.
Jesse, magnifique, quoi. Magnifique dans tous les sens du terme. Clément.
Oui. Écoute, moi j'en sors du film, donc je suis un peu, ça m'a remué clairement, ça m'a fait un truc émotionnellement. C'est un film fort, je trouve, comme ces autres films. J'ai vu Ex Machina dans la semaine que j'avais pas vu, j'ai adoré aussi. Je sais pas, je suis que sur l'émotionnel là, donc de toute façon vous avez tout dit en termes de structure, de thématique et tout. Ça m'a remué. Que dire d'autre, je suis un poil déçu de deux trucs, c'est que bon, il n'y a pas de twist, c'est vrai que je pensais vraiment qu'il y aurait un truc genre elle est en enfer et tout, mais en fait c'est mieux comme c'est, parce que c'est plus subtil, c'est quand même dans une forme de réalité. Après, est-ce que c'est sa réalité mentale, c'est un film sur le deuil, c'est un film sur la résilience, comment tu passes à autre chose, etc., comment tu tournes une page. Et l'autre truc qui m'a un peu moins plu, c'est le perso de l'ado gamin. J'ai pas vraiment compris qu'est-ce que ça racontait qu'il soit fait avec une tête un peu en CGI. Et je pense que j'aurais préféré que ce soit un enfant, un acteur enfant qui le joue, pour dire que la masculinité toxique peut commencer dès l'enfance, en fait, selon comment tu as été éduqué. J'aurais trouvé ça plus fort du côté de ce personnage, que ce soit vraiment un gosse. Là, que ce soit cet acteur qui joue un gosse, ça m'a fait un peu comme dans Aline. C'est-à-dire que tu vois la tête de Valérie Le Mercier sur un gosse de 9 ans. J'ai un côté, et je pense que c'est volontaire, hein, parce qu'il y a dans le visuel du perso, il est très dérangeant à regarder. Mais du coup, j'ai pas exactement compris qu'est-ce que ça racontait, que ce soit lui qui le fasse aussi. En fait, ce qui se passe, c'est que comme dans tous ces films, et notamment dans Annihilation, c'est que le dernier tiers, il est trop fort pour les structures de films, parce qu'à chaque fois, dans le dernier tiers, il se passe toujours un truc que tu n'as absolument pas vu venir et qui est une espèce de temps suspendu jusqu'à la fin. Et moi, la fin du film vraiment m'a énormément happé, et c'est l'espèce de faune nue là qui lui souffle du pissenlit à la gueule, donc le pissenlit qui est aussi la fleur des morts, donc voilà, symbolique. Et à partir de là, elle ingère une fleur de pissenlit et le film part complètement en couille. Ça devient super expérimental, il y a plus de dialogue, c'est filmé avec des angles super chelous, il y a cet homme qui n'arrête pas de se reproduire, de sortir de lui-même pour finalement accoucher de son mari, enfin, ça m'a énormément touché. Et moi je ne l'ai pas ressenti comme toi Kevin quand il dit que tu m'aimes plus. Enfin, pour moi le personnage du mari il est à 100% condamné par le réalisateur, j'ai pas trouvé qu'il y avait d'ambiguïté à ce côté-là.
Ah non, mais je voulais pas dire qu'il le justifie, hein. Je disais juste que je trouvais qu'il y avait de la maladresse et que du coup le message était un peu biaisé.
Ah, pour moi, les hommes sont vraiment condamnés dans leur aspect mauvais, négatif, comme ça, c'est-à-dire culpabilisant, harceleur et tout. Et pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté. Et je ne me suis pas dit à un moment donné dans le film, ah, c'est fait par un mec à ce moment-là. Et ensuite, bah, énorme performance de Jesse Buckley, mais c'est comme d'hab. Hein, cette meuf, elle est vraiment très très forte. Il faut voir tous ses films parce que.
Lost Dot.
Mais même là, elle est bien, en vrai. Dans ce film-là. Et elle est habitée, quoi. Vraiment, elle a un truc. Voilà. Donc, je ne suis pas dans l'analyse, je suis que dans l'émotionnel. J'ai aimé, avec 2-3 bémols, mais je trouve qu'un film qui tente autant de choses, il faut quand même le saluer, parce que ça reste un film d'horreur. Moi, j'étais dans une salle où il y avait beaucoup d'ados. C'était insupportable d'ailleurs, parce qu'ils rigolaient. Dès qu'il y avait le mec nu, ils rigolaient et tout. Au bout d'un moment, j'ai fini par dire un gros chute, tu vois.
On a vécu la même séance.
Putain, insupportable.
Voilà, à midi, si vous pouvez, les gars.
Et du coup, j'ai l'impression quand même qu'au final, ça leur a bien fermé leur gueule et qu'ils s'attendaient à un film d'horreur peut-être plus gore ou quelque chose de plus traditionnel à la Blumhouse et tout, avec des jumpscares. Là, non, c'est que sur de l'ambiance. C'est flippant, mais des fois, tu sais même pas exactement pourquoi c'est flippant. C'est juste comment c'est cadré, un peu le sound design. Et tout, et je trouve que voilà, c'est de l'horreur à 24 comme ils font, mais moi je préfère ça à Ari Aster par exemple. Voilà, ça me parle beaucoup plus.
Et après, c'est vrai que nous on l'a vu parce qu'on sait, on connaît Alex Garland, on connaît A24, donc on a décelé que la BA elle était formatée, certes, peut-être pour un public plus large, mais on avait capté
même
que...
si elle était originale, hein, quand même.
Comment
elle était originale déjà la BA,
la BA, oui, ouais. Oui, surtout qu'il y a des images qu'on ne voit pas quand ils ont fait un montage spécialement pour la BA pour représenter le multivisage de Rory Kinnear.
Ah, oui, c'est vrai,
ouais. Et ça me rappelle qu'ils avaient fait pareil pour It Comes at Night. Je me demande si c'était pas une production A24 c'est d'ailleurs, production à ce moment-là. Ouais. Et on avait eu pareil, tu te rappelles, Kenny, on était parti voir ça,
oui.
Où on savait que ça allait être de l'horreur un peu auteuriste, quoi. Et on avait pareil une bande de jeunes et tout qui s'était fait un peu niquer, quoi.
Ouais.
C'est fait douiller et ils ont été insupportables.
Ouais, ouais. En fait, ouais, ils pas de sortir.
Mais la gêne qui émanait d'eux, c'était intéressant aussi. C'est que en fait, ils étaient en train de se prendre le film dans la gueule et genre ils rigolaient au moment où c'était ultra cringe et ultra gênant.
Ils savaient pas gérer leur émotion.
Ils savaient pas gérer ce qui se passait.
Exprimer aussi un certain malaise, quoi.
Et alors la théorie.
Bon, c'est pas vraiment une théorie.
Allez, l'analyse.
Je vais juste apporter un peu de grain à moudre à une analyse qui a déjà été donnée par Kevin. C'est pas vraiment une théorie, c'est plus une analyse.
La même, du coup,
à peu près, ouais, mais ouais. J'apporte plus de détails peut-être pour ceux qui auraient besoin d'en savoir un peu plus ou qui sont perdus aussi en ayant vu le film, tu vois. Je pense que c'est aussi important de mettre des mots sur des choses. Alors, la forme, on en a parlé. La forme, j'ai adoré la mise en scène, les cadres, la photo, la performance des acteurs, blabla, etc. Le cadre du lieu isolé aussi, il apporte beaucoup au fond du film et il est très important, je trouve, parce qu'il est chargé de symboles et de métaphores. Et sans ce cadre là fourni de symboles et métaphores, on peut peut-être pas. Avoir ce genre d'histoire. Et Alex Garland, tu l'as dit, c'est pas un mec qui est con, quoi. Alors oui, c'est pas quelque chose que j'ai découvert en ayant un troisième œil. Attention, hein, je vais juste faire une analyse du film, quoi. C'est pas une théorie. J'ai un peu trop vendu le truc en mode théorie. C'est pas une théorie. Et en fait, elle est morte depuis le début.
Danny Chandouidoui.
Non, mais voilà, on va passer au fond. Du coup, je trouve que le fond, selon les personnages et la construction du film, je peux analyser le truc sans peut-être trop m'éloigner de la vision de Garland. Ou du moins, si je m'en éloigne, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti personnellement. Premièrement, tout le symbolisme biblique d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, ça c'est représenté direct. Elle arrive là, elle tombe dans le jardin d'Éden, elle mange la pomme. Donc voilà, c'est ou le paradis selon certains textes en fait, tout simplement. Donc en fait, c'est une interprétation de la Genèse, quoi, vue par lui. Et la Genèse, qu'est-ce qu'elle raconte ? Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Genèse, ça c'est tiré de la Genèse. Alors Adam, il a donc été créé à partir de la terre, ce qui se retrouve littéralement dans son nom. Un nom Adam, ça signifie homme. Et la racine du nom Adam, Adama, en hébreu, ça signifie terre. Donc, on se rapproche de plus en plus de la figure présente dans le film. Dieu, ensuite, il a créé le jardin en Éden. Il y a posé Adam. Il a fait pousser des sols pleins d'arbres abondants, agréables à voir, des bons trucs à manger. C'était sympa. Adam, il était là, il mangeait des petits fruits. Bref,
c'était chill.
On lui a dit, par contre... Tu touches pas aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc voilà, déjà, on est sur qui est le pommier, hein, représenté par le pommier la plupart du temps, mais on parle, je crois que c'est même pas cité pomme en fait. Hein, c'est vraiment juste nous comme ça qu'on l'a.
Il y en a qui disent que c'est un figuier. Et c'est sérieux.
Il n'y avait peut-être pas de pommier.
Et la figue, il y a une symbolique beaucoup plus.
Bref, cet arbre-là, tu n'y touches pas. Si tu manges ces fruits, tu meurs, quoi. Et tu perds ton état d'innocence perpétuelle. Donc, il était nu dans ce jardin. Donc, on se rapproche de plus en plus de la figure du mec. Puis arrive Ève, forcément, parce qu'il se fait chier Adam. Du coup, Dieu, il crée Ève à partir de sa côte. Bref, tout ça, vous connaissez. La tentation, du coup, révélée avec le serpent qui arrive. Serpent, d'ailleurs, les écailles qu'on a vues dans la BA, qu'on ne retrouve pas forcément dans le film.
Ah oui, c'est vrai.
Qu'il y a aussi dans l'affiche représentée sur. Si vous regardez l'affiche, vous ferez attention.
C'est une micro-douille de la bande.
Les briques du tunnel de l'affiche sont en forme d'écailles. Ce qui n'est pas le cas dans le film. Donc, c'est vraiment une interprétation aussi d'affiche. Donc bref, le serpent arrive et il dit à Ève, Dieu sait que le jour où vous y goûterez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux. Retenez bien toutes les phrases que je dis, comme des dieux connaissant le bien et le mal. Bref, Ève, elle fait bah vas-y, moi je m'en bats les couilles.
J'ai faim, j'ai la dalle.
Donc elle le mange, elle croque dans la pomme. On se retrouve du coup dans le film avec Harper qui croque dans la pomme. Et elle convainc Adam d'en faire autant. Du coup, elle l'embarque dans son délire. À partir de là, je vais citer la Genèse. Leurs yeux se sont ouverts et ils se sont vus nus. Ça, c'est les symbolismes de départ. Du coup, le mec nous pose son truc, il pose ce contexte-là. On est dans un jardin. C'est clairement pratiquement la première partie du film où elle se balade en forêt et tout, etc. Elle mange une pomme, elle arrive, elle mange une pomme. Autre symbolisme du film, parce qu'il y a aussi d'autres symbolismes qui sont présents dans la BA et qui sont aussi présents dans le film, évidemment. Enfin, quoique parfois, c'est pas le cas, mais là, pour le coup, oui. Bref, pour moi, à partir de l'histoire d'Adam et Ève, Garland a construit son film en y accolant le genre d'horreur. Donc, il a son décor et il a y ajouté d'autres symboles visuels forts et qui proviennent de la culture britannique. Et ce sont notamment, tu en as parlé, Kevin, de ces deux fameuses statues que l'on voit dans le film et qui sont des statues qu'on peut retrouver dans pas mal d'églises britanniques, en fait, qui datent à peu près du 12e, 11e siècle. Donc, d'un côté, on a, je vais vous donner des noms un peu bizarres, mais la Shilanagig, qui est une sculpture figurative féminine au très grotesque, montrant une exagération de la vulve. Donc, en gros, c'est une femme qui écarte les jambes avec une énorme vulve. Et voilà, qui sont présentes dans les châteaux britanniques, les églises, tout ça. Je me suis renseigné là-dessus. Il y a controverse. Hein. Tout le monde, il n'y a pas vraiment d'explication sur la signification du truc. Il y a pas mal de significations hypothétiques qui sont que soit c'est les vestiges d'une divinité païenne, soit c'est la représentation de la fertilité, soit c'est la mise en garde contre la convoitise, ou encore c'est la protection contre le mal. Et de l'autre côté, on a l'autre statue qui s'appelle l'homme vert, The Green Man, qui lui est une représentation sculptée ou dessinée d'un homme entouré au visage de feuilles, quoi, entouré de feuillages, de branchages, voilà, que des motifs un peu végétaux. Et c'est un symbole qui est présent à peu près partout aussi en Grande-Bretagne, soit dessiné, soit sculpté en bas-relief ou quoi que ce soit, qu'on peut retrouver notamment dans les églises, mais aussi dans les pubs. Il y a une signification qui a été donnée par William Anderson qui a écrit « L'homme vert signifie l'irrésistible vie. Il est une image issue des profondeurs de la préhistoire. Il apparaît et semble mourir. Puis après un long temps d'oubli, il revient à plusieurs reprises au cours de ces derniers 2000 ans. De par ses origines, il est bien plus ancien que notre ère chrétienne. Sous toutes ses formes, il est une image de renouveau et de renaissance. »
Ah oui, on y est.
Commence à voir où je veux en venir, quoi. Donc tous ces symboles, ils ne sont pas juste mis là au hasard, mais ils vont fournir le folklore que veut créer aussi Alex Garland, parce que lui, il l'a mixé à sa sauce. Donc du coup, maintenant, on a tous ces symboles, on les relie au film. Donc voilà, il y a tout le symbolisme biblique pour le décor, tout le symbolisme de la culture mystérieuse britannique, là, avec l'homme feuille et puis l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle.
Vulvax.
Vulvax, on va l'appeler Vulvax. Du coup, il les mélange parfaitement au code de l'horreur pour apporter une forme, en fait, à son fond. Parce qu'il a des choses à dire. Et il les relie à une analyse qui est plus actuelle, sociale et politique, avec un sujet fort, peut-être certes retardé, William, mais à mon avis qui est encore d'actualité.
Oui,
qui est simplement l'emprise des femmes par les personnes dotées de troubles narcissiques, plus communément appelés les pervers narcissiques. Qu'est-ce qu'un pervers narcissique ? C'est important. Je pense que vous le savez peut-être, vous autour de la table évidemment, mais peut-être qu'il y a des gens. Je me doutais bien que tu étais pervers narcissique. Toi. Mais peut-être ça va être important aussi en élément d'avoir les petites réponses. Donc j'ai fait mes petites recherches pour avoir les définitions de docteurs qui étudient la question.
Tu veux dire que tu as une définition clinique alors ?
J'ai une définition clinique de qu'est-ce qu'un pervers narcissique. Alors un pervers narcissique, c'est une personne qui a une image dévalorisante d'elle-même et qui se valorise en rabaissant tout simplement les autres.
Exactement.
Donc voilà, les hommes sont les plus souvent touchés que les femmes. Alors il faut savoir qu'il y a des perverses narcissiques, comme on dit. Mais c'est souvent un truc d'homme, hein. C'est un truc qui colle à la peau des hommes. Les femmes sont moins touchées par la perversion narcissique.
Sûrement parce que comme l'homme, il est au sommet social, enfin c'est moins le cas maintenant, mais à l'époque, il était au sommet social. Forcément, c'est les gens qui sont au sommet social qui sont peut-être le plus aptes à se sentir dévalorisés par rapport aux autres concurrents, tu vois ce que je veux dire. Alors que les femmes étaient au bas de l'échelle sociale, il y a peu de chances qu'elles se combattaient entre elles pour, tu vois, par rapport aux hommes.
C'est un système, j'ai l'impression que c'est aussi un système de un peu de domination, un peu primaire de « je suis un homme, je dois être plus fort que toi ».
Oui, il y a un peu de cerveau reptilien là-dedans.
Ouais, ouais, pour te prouver que je suis meilleur que toi, je vais te prouver que toi t'es nul. Quoi.
Ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, ils se donnent l'apparence d'un être supérieur et ils ressentent le besoin exacerbé de se faire admirer. Quoi. Ouais. Donc, ils manipulent leurs proches, leur entourage, ils ressentent aucune culpabilité. Et il blesse les autres, voilà. Et c'est le cas de James, en fait, son mari qui s'est suicidé. Et attendez de comparer son personnage et les symptômes du trouble narcissique. Vous allez voir, plus précisément, quels sont les symptômes du trouble narcissique. Parce que très souvent, la personne atteinte de trouble narcissique, de la personnalité narcissique, est une personne séduisante. Et James, il est BG, déjà, premier point. Parce que souvent, ça touche les BG, quoi, je veux dire. C'est pas un truc de moche. Donc c'est bon pour nous.
Quelque chose de très subjectif, mais soit, allons-y.
Les symptômes du pervers narcissique. Alors je vais partir en petits points, liste de symptômes. Le pervers narcissique entretient une communication floue, il change fréquemment d'opinion, il raconte des mensonges, il éprouve de la jalousie, il est incapable d'avouer ses torts ou d'assumer la responsabilité de ses actes, il est incapable de reconnaître les besoins ou les sentiments d'autrui, il est continuellement en quête de reconnaissance ou de succès, il présente parfois plusieurs visages, par exemple le passage d'une profonde tristesse à la colère lorsqu'il est contrarié, et il n'est pas conscient du mal qu'il provoque. Cependant, l'influence qu'il exerce sur autrui est calculée. De l'autre côté, la personne qui est victime du pervers narcissique, elle ressent de la culpabilité, elle se sent dévalorisée, elle reçoit de nombreuses critiques, elle ne se sent plus elle-même, elle sent qu'elle doit faire attention à tout ce qu'elle dit et fait tout pour ne pas contrarier l'autre. Donc là, on est clairement dans la définition
c'est 100%, hein.
De James et Harper. Quoi. Bref, lorsqu'il n'est pas traité, un trouble de la personnalité narcissique peut conduire à l'abus d'alcool ou de drogue, la dépression, des pensées ou des comportements suicidaires et des difficultés relationnelles. Bon, en tout cas, il est difficile d'identifier une relation toxique et de la quitter. En gros, la meilleure manière de se défaire de l'emprise d'un pervers narcissique et de mettre fin à la relation...
C'est de fuir.
C'est, surtout quand il s'agit d'une relation de couple, c'est... on peut fuir, mais... Du coup, c'est un type de relation qui conduit à de l'épuisement. T'es mentalement, t'es épuisé. T'as une perte de confiance en soi. Tu te reconnais même plus.
Je pense qu'on peut même parler de charge mentale, du coup.
Ah, mais là, totalement. Tout espoir de vie harmonieuse et saine, c'est même pas la peine d'y penser. C'est mort. T'es victime d'un pervers narcissique, tu crées une confusion mentale, en fait. Et ça, c'est les docteurs qui en parlent comme ça. Tu te crées une confusion mentale. C'est des bouleversements émotionnels qui empêchent parfois des réflexions rationnelles. Vous allez voir où je vais en venir du coup. Le pervers narcissique cherche fréquemment à isoler la personne sur qui il exerce son emprise et tente parfois de lui faire couper contact avec ses proches. Et c'est la définition même de Harper, pour moi, dans tout le contexte du film, de tout ce que je viens de vous dire. Là. J'en arrive à mon analyse, qui est là. En fait, Harper, elle a vécu sous l'emprise d'un pervers narcissique qui est James. Ce même homme qu'elle a voulu quitter parce qu'il était pervers narcissique, elle voulait divorcer. Ce même homme qui, acculé, a joué la carte du chantage affectif en disant « Attention, moi je vais me suicider et tout, il faut que tu m'aimes, machin, etc. » Elle s'en est très bien rendue compte. Elle dit « Non, en fait, justement, c'est à cause de ça que j'ai envie de me casser. » Il se donne quand même la mort. Elle est traumate, évidemment. En plus, elle le voit mourir les yeux dans les yeux, quoi, pratiquement. Elle est traumate par cette expérience et encore victime de son trouble narcissique, encore sous l'emprise de son trouble narcissique. Et de sa manipulation mentale, elle s'est isolée en pleine campagne anglaise, justement dans un trou perdu, pour pouvoir faire le point sur sa vie. Mais ça a continué malgré tout à la hanter. Dès lors, James, il s'est manifesté en la présence d'un homme à plusieurs visages. Comme dit plutôt, un des symptômes, c'est d'avoir plusieurs visages, d'avoir plusieurs facettes, qui en plus est visiblement appuyé en étant interprété par un seul mec, par un seul acteur. Donc, il représente chacun en fait un fragment de cette emprise narcissique qu'il avait sur elle. James, en plus, il s'est doublé par le poids de la culpabilité que leur apportent tous les personnages. Quoi. T'es coupable. Alors on a conscience qu'elle n'est pas coupable, mais on n'arrête pas de lui dire à chaque fois que c'est une merde et que c'est de sa faute s'il est mort. Donc il la rabaisse, il la critique pour en arriver jusqu'à leur fin. Il la croit pas, genre le flic qui est présenté dans le truc, il la croit pas, il relâche le mec qui est venu... faire le pervers dans son jardin et tout. Et surtout, il l'effraie. Donc, ils sont clairement tous pervers narcissiques et ils représentent, à mon avis, tous les fragments de ce même James. Alors, elle se sent plus elle-même, elle perd sa confiance, alors qu'elle était revenue gagner justement ici pour mieux se sentir. Et même après sa mort, elle est encore victime de l'emprise de ce pervers narcissique et elle crée une confusion mentale qui peut aussi expliquer le surnaturel du film. Tout ce qui est, elle perd sa rationalité en fait. Du coup, il n'y a plus rien de rationnel. Je pense qu'on peut peut-être l'expliquer comme ça. Et pour rappel, un pervers narcissique, il tente parfois de couper le contact avec les proches. Et ça, c'est montré aussi dans le film. Oui, parce que lors des appels visuels avec son ami.
Physiquement, le contact se coupe.
T'as les trucs qui se brouillent et même la connexion qui saute. Parce que c'est un pervers narcissique qui ne te laissera pas justement trouver une solution chez tes amis, tu vois. Et même au-delà de la notion de pervers narcissique, ça parle de violence en général cyclique hein, de l'homme sur la femme, qui sont appuyées par des symboles comme les tunnels, les couloirs, les graines, les fentes, bref, une espèce de... toutes les choses cycliques, quoi, les échos, les choses qui vont, qui reviennent, les choses... Et pour revenir à Adam et Ève, il pose son contexte pour donner corps à son histoire, auquel il apporte les codes de l'horreur, et je trouve que ça, c'est trop malin, parce qu'il aurait pu faire simplement un truc un peu pompeux, un peu autoriste, et ça marche bien, du coup, avec de l'horreur. Et c'est aussi comme ça qu'avec les autres symboles, comme les statues, l'homme vert et Sheila Nagig, la vulvax, qui finissent par ne faire plus qu'un, en fait. Ils créent un monstre qui fait naître le mal encore et encore jusqu'à qu'il soit figuré par James lui-même. Et c'est la catchphrase de l'affiche, hein. Le mal le engendre le mal. C'est une très bonne catchphrase d'ailleurs, ça, bravo. Et quand elle avale la graine
qui... marche pas en anglais.
J'avoue, mais ils doivent être contents.
We will engender the man. Elle marche qu'en français.
Oh no,
it's not working.
Et quand elle se fait souffler le pissenlit, là, quand elle avale la graine qui est soufflée par l'homme vert et que ça rentre dans sa bouche, on en revient à ce que je disais sur la création d'Adam dans la Genèse.
La poussière.
Ouais. L'homme répondant au nom d'Adam a été créé lorsque Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant.
Est-ce que tu ne penses pas, pardon ce que ça me fait penser, mais pour moi c'était un peu les pissenlits, les petits pistils là, c'est leur semence en fait, en vrai.
Et puis c'est les fleurs sur les tombes.
Et pour moi c'est aussi une forme de figurée un peu de viol.
D'éjaculation.
Ouais. D'éjaculation.
Ouais, et puis visuellement aussi ça marche bien parce que tu souffles sur un pissenlit.
Ouais, mais je trouve qu'il y a ce côté-là de
après je sais pas comment l'interpréter ça, tu vois, parce que j'ai l'impression qu'à partir du moment où il y a le souffle du pissenlit et qu'elle commence à avoir vraiment les visions vénères et tout, elle a plus peur. J'ai eu une impression mais à partir justement. De ce moment-là que c'est comme si elle reprenait le contrôle et qu'en gros, elle les dégomme un par un et sans aucune...
La bascule
elle n'est plus du tout dans la victimisation.
Parce qu'à partir de ce moment-là, elle donne corps à James et elle devient James, car il la hante trop profondément malgré sa mort et elle devra vivre avec ça pour toujours. Donc moi, je pense que c'est ça justement à ce moment-là. Elle accepte.
Pour toujours, mais elle s'en libère quand même.
Ça, c'est montré par le plan de fin, mais moi, je l'évince un peu parce qu'on va reparler de ce plan de fin. Bref, pour finir, petite dernière analyse de la chanson qui ouvre et ferme le film.
Ah oui.
C'est pas anodin non plus.
Une fois chantée par une femme, une fois chantée par un homme.
Voilà, Love Song de Leslie Duncan de base, qui fait extrêmement sens avec tout ce que je vous ai dit, en fait, et dont voici les paroles traduites en français. Les mots que j'ai à dire sont peut-être simples, mais ils sont vrais. Jusqu'à ce que tu donnes ton amour, il n'y a rien de plus que nous puissions faire. L'amour est ce pourquoi nous sommes venus ici. Personne ne pourrait vous offrir plus. Tu vois ce que je veux dire ? Vos yeux ont-ils vraiment vu ? Tu dis que c'est très dur pour laisser derrière nous la vie que nous connaissions, mais il n'y a pas d'autre moyen. Et maintenant, c'est vraiment à vous de voir. L'amour est la clé que nous devons tourner, la vérité est la flamme que nous devons brûler, la liberté, la leçon que nous devons apprendre. Tu vois ce que je veux dire ? Vos yeux ont-ils vraiment vu ? Voilà. Mais je pense vraiment que voilà, on est sur ce truc cyclique où, en fait, à force d'être... maltraitée, rabaissée, elle est surtout hantée par l'emprise de James, elle finit par l'accepter et devenir lui. Et moi, c'est comme ça que je le vois. Alors oui, il y a cette fameuse image de fin où en fait, on n'est plus du tout dans le surnaturel et on rejoint le réel, où sa fameuse amie, elle arrive au final.
Oui, mais du coup, ça rejoint ce que tu disais, c'est-à-dire qu'à partir du moment où finalement des proches... Parce que du coup, d'après ce que tu disais, c'est que le meilleur moyen... de te remettre de ce genre de rupture ou de ce genre de relation avec un pervers narcissique, finalement, c'est de rester entouré des gens qui vont être capables de te redonner un maître étalon de conscience de toi et d'estime de soi. Donc peut-être que le fait que ce soit isolé crée cette dissonance entre elle et le réel et qu'à la fin, elle retrouve pied parce que justement, il y a quelqu'un de son entourage qui l'estime, qui vient à sa rencontre physiquement.
C'est un sous-texte tout le film. Hein. C'est vraiment l'isolement physique. On parle d'isolement mental du coup en fait. C'est pour ça qu'il y a plein de double lectures de ce côté-là et tout. Et je pense qu'il est parti dans ce délire-là où vraiment il a voulu montrer ce que c'est un gros pervers narcissique et du coup d'en créer un monstre quoi. Tout en utilisant, il s'était pas dit je vais faire un monstre pervers narcissique, ça s'est vu dans plein de films, des mecs pervers narcissiques qui
après le
femme.
Mot est pas prononcé une seule fois dans le film, c'est là où ta lecture elle est intéressante je trouve, mais pour moi il n'y a pas énormément d'éléments parce qu'on le voit pas beaucoup James quand même, et il n'y a pas énormément d'éléments qui permettent de dire que c'est à coup sûr ça, Pour moi, c'est plus quelqu'un qui est désespéré et qui sait pas du tout comment gérer ça. Mais enfin, moi, j'ai pas du tout eu cette grille de lecture du film. Pour moi, il y a aussi un aspect très sociétal. C'est que, par exemple, c'est aussi un tas de micro-trucs sexistes qui l'emprisonnent. Par exemple, quand elle arrive dans le cottage, le gars, il veut absolument porter ses valises, alors qu'elle, elle veut pas. Et il lui porte ses valises, et au final, c'est trop lourd pour lui, et il finit par lui dire « Ah, j'aurais dû vous laisser porter les valises. » Et c'est plein de micro-trucs comme ça qui sont un peu de la masculinité toxique ou de ce qu'on pourrait appeler des fois de la galanterie, mais
et pour moi ils représentent tous chacun justement,
mais
une
ça
définition.
Pour moi c'est pas forcément James, c'est là c'est plus un discours sur ce que les hommes font en société avec les femmes. C'est la même chose avec le policier, c'est que au final le policier il finit par relâcher le stalker qui était dans son jardin, et quand il lui dit ah mais donc il peut revenir et tout, il fait ouais voilà, bon bah ça c'est quand tu vas déposer une plainte à la police, et tu peux très bien être reçu comme ça par des gens comme ça. Donc je pense qu'il y a ce discours psychologique, peut-être le truc du pervers narcissique, même si moi je suis pas sûr parce que le mot est pas dit dans le film, mais il y a aussi tout le discours sociétal sur comment les hommes se comportent
moi,
avec les femmes, quoi.
Il le dit pas justement parce qu'il représente chaque facette à travers les rôles de Rory Kinnear, tu vois.
Après là où je suis d'accord avec Kevin, c'est que c'est pas subtil. C'est que tout ça, on le sait.
Ah non, c'est pas subtil.
On connaît, tu vois, Adam et Ève, on connaît tout ça. Et c'est vrai que le film aurait pu aller un tout petit peu plus loin ou être un tout petit peu plus nuancé que ça. Et au final, ça reste une femme qui est harcelée par différentes formes d'hommes et de masculinité toxique.
Mais qui représente à la fin seulement un mec, en fait.
Oui, ça c'est donc, stylé. Mais voilà, ça dépasse pas ça. C'est là où moi, j'ai un petit...
Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il ait réussi justement à piocher du folklore pour créer de l'horreur. Tu vois, parce qu'il aurait pu simplement créer juste des mecs qui la tabassent, quoi. Et s'en arrêter
après,
là.
Après, si tu te documentes pas sur les statues et tout, tu passes à côté de ça, tu vois. Enfin, là, moi, c'est intéressant parce que t'en parles, le côté les statues païennes et tout, machin. Mais honnêtement, c'est juste des plans dans le film.
Après, la métaphore, elle appuie quand même.
Oui, voilà, mais c'est pas un élément de background que lui vient t'apporter. Ça, c'est un truc qu'il faut aller chercher toi-même si ça t'intéresse, quoi.
Du coup, les origines du monstre, quoi.
C'est ce que dit Clément, c'est-à-dire qu'en effet, c'est pas du tout des sujets qui ont disparu actuellement, mais comme ça fait maintenant quelques années qu'on en parle, si tu viens avec quelque chose d'assez finalement, c'est pas du tout caricatural, mais d'assez peu subtil, d'assez peu nuancé, et ben ça fait presque. Ouais, bon. On passe un peu à côté parce que on a déjà passé cette étape. C'est pour ça que je disais qu'il est peut-être un petit peu.
Ce qui est nouveau, c'est de le faire en horreur.
Voilà. C'est un peu trop premier degré.
Je disais que c'est pour ça qu'il est peut-être arrivé un peu en retard.
Pense que ça serait. C'est ma sensation. S'il avait fait l'inverse de son parti pris, à mon avis, ça aurait été plus efficace. S'il avait rendu plus premier degré le fantastique et plus en sous-texte la masculinité toxique. Pour que tu le comprennes au fur et à mesure par l'intrigue fantastique. Je pense que ça aurait été plus efficace que tu entrais de film là-dessus. C'est pour ça que je trouve que par exemple Ex Machina parle mieux de ce sujet-là que Men, parce que c'est pas le premier sujet du film, c'est le sujet qui peu à peu s'installe, où tu comprends que il féminise un robot parce que d'un côté il y en a qu'il voit comme sa prisonnière, comme son objet sexuel, l'autre comme une princesse à délivrer, quoi, simplement, alors que en fait elle, tout ce qu'il veut, c'est être libre. Elle s'en fout de ces deux mecs là mais je trouve que le thème est vachement, la thématique est vachement mieux traitée comme ça, quoi.
Ouais, tout en partant aussi de Pinocchio, hein.
Je trouve que c'est, à mon avis, c'est un piège quand tu veux traiter un sujet aussi important et aussi vaste, de te dire je vais parler que de ça, et ça va être ça le premier degré, ce dont je vais parler.
Après, au moins c'est franc du collier, tu peux pas passer à côté, quoi.
Mais tu vois, je trouve que formellement, dans la construction, ça pêche à cause de ça.
Pour moi en tout cas, le film, il est vraiment en mode 36e degré, où on est dans le mental de cette pauvre fille qui a subi tout ça et qui a du mal à s'en sortir, parce que l'emprise du mec toute sa life existe encore même après, parce que du coup on la force à culpabiliser, alors qu'elle est au courant que non, mais elle ne peut pas s'empêcher, en fait, de l'être. Parce qu'il y a tout le monde autour d'elle qui lui dit « C'est de ta faute s'il est mort, c'est de ta faute s'il est mort. » Parce qu'il est mort, tu vois.
Il l'a frappé aussi. Il l'a frappé, mais il a tout.
Il a la jalousie, incapable d'avouer ses torts, il est incapable de connaître les besoins et sentiments de
lui. Il veut lire le portable.
En plus, voilà, tout ça, c'est représenté un peu comme ça, le fait de couper les ponts avec ses proches.
Et juste rapidement aussi, il y a souvent des plans sur des ondes dans l'eau. Et en fait, quand je suis sorti du film, je me suis demandé qu'est-ce que ça représentait, ces ondes. Et en fait, je pense que ce que tu disais là, William, c'est que l'élément déclencheur, c'est quand il... Enfin, déjà, c'est qu'elle veut divorcer. Et ensuite, c'est quand il la frappe. Et en fait, c'est comme si le reste du film, c'était les ondulations de l'onde de choc de cet événement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il la frappe, elle rentre dans une colère noire, elle le fout dehors, il se suicide, elle part à la campagne, etc. Et du coup, ces ondes dans l'eau, pour moi, ça représente ça. Alors, c'est pas subtil non plus, mais par contre, il y a des très beaux plans, du coup, d'eau.
Et même le tunnel, elle peut pas aller
le
au bout.
Le tunnel aussi,
il
peut
est
pas
bloqué par un homme. Oui. Du coup, elle fait demi-tour, elle revient, il est fermé. Tu vois, c'est vraiment genre, moi, tu vas rester dans ton malheur, quoi.
C'est bouché, ouais.
Bon, Romain, 14 sur 20.
Non, c'est bien. Il y a du taf.
Belle analyse.
Ouais, en tout cas, le film est dense. C'était pas
bien compliqué, c'était pas du Kubrick, mais voilà, je pense que peut-être qu'il y a des gens, tu vois, qui nous écoutent, qui ont rien compris, et peut-être que ça peut les éclairer.
C'est possible, hein, parce que le film est assez cryptique quand même.
Voilà, mais j'ai bien aimé le fait qu'il ait créé des monstres entre guillemets à partir de mythologie comme ça là. Et encore, même pas, lui c'est son idée à lui, parce que le Vulvax là, on sait même pas en fait pourquoi il y a ça dans les églises.
Parce que le prêtre il lui dit à un moment donné, j'ai rêvé de votre vulve ouverte.
Oui, oui. Mais il fait juste référence à ce que figure la sculpture.
Est-ce que la figure de Vulvax, ça lui permet pas juste d'avoir à la fin cette séquence d'homme qui s'accouche lui-même
Une vulve.
Mmh. Voilà, parce que si en fait il ne mélange pas le Green Man et elle, bah toute cette séquence de fin peut pas exister. Donc en fait, ça se trouve c'est juste un prétexte de pouvoir mettre cette séquence.
C'est ça pour moi. Il a pris.
Mais ce qui est suffisant pour l'intégrer.
Il a pris du Green Man, il a pris de Vulvax, il les a fait mélanger ensemble. En les présentant d'abord et ensuite voilà quoi.
Mais après j'ai l'impression que ça a l'air d'être des entités qui marchent un peu à la Janus quoi, ces deux visages finalement.
Avec deux visages,
Enfin voilà, écoutez.
C'était dense.
C'était dense alors quoi. Ça fait un long épisode là, mais bon.
C'est à voir. Et il a annoncé qu'il faisait plus de films, donc j'espère qu'il va changer d'avis parce que je trouve que c'est quand même un très bon réal et scénariste.
C'est vrai que sur ces trois films, c'est très bien réalisé. Qu'on aime ou pas ces films, c'est quand même assez propre.
Techniquement, il y a rien à dire.
Ouais. Après voilà, élève de Danny Boyle et tout, donc. Et puis il doit être bien entouré techniquement parce que derrière il a tout plein de contacts dans le jeu vidéo, dans la musique, dans tout ça. Le mec il doit connaître du monde, donc t'inquiète qu'il s'entoure bien. Ça c'était notre avis, notre analyse, nos théories sur Men d'Alex Garland. Mais la presse, hein, j'ai bien hâte de savoir ce qu'ils ont en pensé.
Qu'est-ce qu'ils en pensent,
Kevin?
La revue de presse.
Kevin, la presse, tu es parti piocher ce qu'a dit la presse autour du film.
Je suis parti piocher, bien sûr. Bah, déjà, je vais commencer par les notes. Les notes, c'est un peu mitigé. On est sur Rotten Tomatoes avec 69%. Donc, c'est plus de la moyenne, mais ça reste, on va dire, du 14-15 sur 20. Metacritic, 65. Donc, plutôt bonne note pour Metacritic. Et Allociné, 3,4. Écoute, bonne note, je trouve.
3-4.
Ouais, bon, je commence comme d'habitude par les gens qui ont le plus aimé, c'est Cinématiseur, qui nous dit « C'est en moins de 2 heures qu'Alex Garland fait converger la démarche politique, l'écriture érudite et la mise en scène précise pour capter la triste vérité de l'ultra-moderne solitude au féminin. Complètement bluffant. »
L'ultra-moderne solitude au féminin.
Fais-nous une analyse de ça.
Écoute, s'il parle de la solitude qu'on voit dans le film simplement géographique et physique, j'ai envie de te dire non, là tu t'égares. Par contre, s'il parle de solitude mentale, oui, alors là j'applaudis.
Comme quoi, ça se joue.
Eh bien, nous lui demanderons. Les dernières nouvelles d'Alsace, ça va.
J'ai bien aimé.
Non, ils nous disent « L'audace formelle de Men par un auteur d'une grande créativité accouche du premier film d'horreur féministe, un grand film.
Ouais, » il est Midsommar quand même. Hein.
Ouais, c'est ce que j'allais dire.
Après oui, je suis content que vous rebondissiez, mais même avant Midsommar.
Il y avait Hard Candy aussi, qui est vachement féministe.
Oui. Mais qui est plus un thriller.
C'est plus un
thriller. Mais il y a d'autres films d'horreur féministe. Alien notamment, oui.
N'importe quel revenge porn.
En tout cas, je ne sais pas si Alien est féministe, mais il y a des composantes féministes dedans, quoi. Donc non, c'est pas le premier. Ouais, grave, oui.
Pas grave, est-ce que c'est féministe, du coup?
Oui.
Titan aussi.
Après, Titan, c'est pas horreur, non? Peut-être. Bon, bref, il y en a eu d'autres avant quand même. Renseignez-vous là.
Enfin
pour
bon, regardez des films en Alsace.
Bécassine.
C'est vrai.
Mimi Cracra.
Très bon film. Oh, Tom et Nana. Écran large.
N'importe quoi.
Men se montre insaisissable, justement parce qu'il ne donne jamais de réponse aux diverses questions que l'on se pose au cours du visionnage. Alex Garland laisse libre cours à la riche toile d'indices qu'il parsème le long du chemin, à commencer par ce pommier qui renvoie comme une ritournelle le féminin à l'image indélébile du péché originel. Le réalisateur fait confiance au pouvoir d'évocation de sa mise en scène et évite de se retrouver coincé par des assertions prémâchées, soit tout l'inverse de l'autosatisfaction que pouvait afficher Darren Aronofsky sur des thèmes similaires dans Mother.
Ouais, par contre, non,
mais par
désolé.
Contre, je suis pas du tout d'accord avec la fin.
Mother, c'est un chef-d'œuvre.
Mother, ça parle quand même de l'art, surtout quoi. Mother, Man, c'est pas
Mother, ça parle aussi beaucoup. Beaucoup
l'art, l'artiste, la muse.
Et j'ai trouvé ça
parle beaucoup
flippant,
de la, c'est beaucoup
Mother.
Biblique. Hein, ça
ah
parle
ouais.
beaucoup de la croix
bah,
et de Aronofsky, la foi. Aronofsky, de toute façon, il est obsédé par Dieu. Hein, donc,
d'ailleurs, Vulvax, lui doit avoir la réponse. Hein. Je pense qu'il garde pour lui.
Vulvax, c'est. Première, Men est une fable sur la guérison et le retour à la vie, un écho aux préoccupations féministes de l'époque, un commentaire sur la masculinité toxique. Question très contemporaine que l'auteur fond dans une atmosphère d'angoisse immémoriale, convoquant pour ce faire des mythes locaux, des symboles anciens de fertilité et de renaissance, comme l'aune vert et la chilea nagig.
Bien vu.
Comme nous disait Romain, et les codes de la folk horror. Folk horror, on n'en a pas parlé, j'avoue, quand on a
si,
fait.
Si, si, on l'a dit.
Si
bah,
on l'a fait
c'est
rapidement.
Tout ce qui est sur.
Oui, voilà.
Tout ce qui est sur un peu campagnard. Ouais.
Très anglais aussi, comme genre, ouais. Avec Wickerman.
Ou Midsommar.
Midsommar aussi.
Ouais, Midsommar, c'est récent, mais genre Wickerman, c'est quand même un film années 70. C'est un truc qu'il est travaillé quand même depuis pas mal de temps. Garland parvient à en donner une vision très personnelle, extraordinairement investie, constamment surprenante, parfois très brutale, aussi brillante dans le registre de l'envoûtement que dans celui de la pure terreur.
Oui.
Totalement d'accord.
Bah, ils ont résumé en un petit paragraphe ce qu'on a mis 55 minutes à dire. C'est bien. C'est bien.
Allez, bah, c'est ça, pour
c'est
ça,
ça
qu'ils
c'est pour ça qu'ils sont pros. Hein.
C'est la presse.
Carte de presse.
C'est mais ils l'ont écrit. Sont pros, tu sais pas combien de temps ça a pris de l'écrire.
C'est vrai. C'est envoûté, en fait. C'est vrai que c'est envoûtant. Je suis d'accord, totalement d'accord.
Télé-loisirs. D'abord séduisant avec son atmosphère très travaillée, le film bascule dans un délire mystico-gore difficile à suivre et à supporter pour les âmes sensibles.
Non.
Ah, ça y est, on est dans le négatif.
Et oui, on est en train de tomber progressivement dans le négatif. Bon, Télé-loisirs,
c'est assez soft.
Télé-loisirs, je trouve pas ça hyper pertinent comme critique, mais bon. Les Inrocks. Malgré l'indéniable talent de Garland pour mettre en place un climat d'angoisse et pour figurer des images effarantes, et malgré sa volonté manifeste de mettre en scène la masculinité toxique, la littéralité de l'entreprise couplée au gloubi-boulga spirituel de son exécution déçoit. Et bah, une fois n'est pas coutume, moi je suis assez d'accord avec
J'ai cru que c'était
la
toi qui avais
littéralité, écrit le truc. Je suis d'accord, c'est assez littéral comme film.
Enfin, moi je trouve quand même qu'ils sont sévères, quoi. C'est pas un mélange informe et incompréhensible de spiritualité. Je trouve pas ça. Je trouve dur, hein, vraiment.
Tu devrais donner le nom des journalistes parce que c'est vrai, des fois.
Je dis vite parce que je sais que certains sont belliqueux.
Bah, ils le signent donc. S'ils le signent, on peut le répéter.
Oui, on peut. Oui. On peut le dire.
Jean-Marc Inrock.
Pour la saison 4.
Ce Gloopy Goodback.
C'est Jean-Marc Inrock.
C'est dur, quoi.
Jean-Marc Inrock.
Mais moi, je suis assez d'accord sur la littéralité. On en parlait. Moi, c'est ce que je trouve le plus désolant.
Mais c'est le cas dans Annihilation et dans Ex Machina. Je veux dire, c'est pas.
Oui, mais comme je disais, je trouve.
Annihilation, il y a des niveaux, je trouve.
Voilà, mais comme on disait tout à l'heure, Annihilation et Ex Machina, comme il y a une intrigue qui, en gros, sert d'appui à ça, je trouve que ça marche mieux que quand le sujet dépasse le. Je m'exprime mal, mais vous avez compris.
Oui. C'est de la SF aussi, peut-être que là, ça utilise aussi d'autres codes.
L'écran fantastique. Ils n'ont pas aimé.
Bah, ça alors. Je crois
mais
pas.
Mais surtout.
Pourtant, c'est fantastique.
Ils nous disent que, surtout que dans sa dernière partie, Men délaisse la subtilité qui faisait sa force pour plonger dans un médiocre symbolisme prônant un brumeux discours féministe. Garland se montre alors complaisant, s'appuyant uniquement sur le gore et les scènes choc, un dénouement paresseux qui gâche toutes les belles promesses du film.
Pas d'accord.
Ah, mais totalement pas d'accord.
La fin, pour moi, c'est la plus grande réussite du film.
Ouais.
Et bah, t'en parleras à Monsieur Fantastique.
Voilà, je lui dirai.
Puis déjà
Captain Fantastique.
Déjà qu'à 24, ils aient autorisé ça. Enfin, moi ça m'a étonné, hein, parce que tu vois quand même de la grosse vulve, hein. Des accouchements en voiture, voilà.
CGI, tout passe en CGI.
Du sang.
Et c'est une vulve d'homme en plus. Hein.
Oui, c'est vrai, tu vois.
Vulvox.
C'est vrai que ça peut être.
C'est vulveman.
Mais je trouve ça limite d'une certaine forme de poésie, en fait, presque.
Le film est poétique pour moi.
Oui, non, mais bien sûr.
Très gore, mais poétique. Tu vois, vous allez me prendre pour un fou.
Mais toutes les poésies sont pas réussies.
Annihilation, la fin est gore et poétique dans le phare, je trouve.
Cronenberg, c'est gore et poétique. Pas tous, mais souvent.
Otoniente, non.
C'est de la merde. Critiquette.
Ah, le teasing.
Critiquette, le journal des chats pour finir. C'est vraiment nul, il n'y a aucun chat. Le film prend la forme d'un grossier home invasion à l'image crypto-chrétienne, bourré de boursouflures symboliques et psychologisantes qui ne cessent de rappeler à quel point le trait de Garland, en dépit des années, reste encore baveux.
Bah alors les chats ?
Non, baveux c'est pas ça.
Pas d'accord.
Baveux c'est les effets spéciaux du prochain film qu'on va
match retourner. Dont on parlera plus tard.
J'ai hâte qu'on en parle la semaine prochaine.
Et c'est tout. Merci Kevin, merci. Justement, on va vous raconter un peu le programme de la semaine prochaine.
Vous allez voir, c'est incroyable.
Incroyable. Et on va se dire au revoir sur ces bonnes paroles. On a fait un très bon match retour. Bravo les amis.
Bravo à vous d'avoir bien vu.
On a fait le tour. Bravo. Allez voir ce film. Écoutez, faites-vous votre propre avis.
Et ça puis, fait parler. Ça, c'est intéressant.
Puis vous nous direz en commentaire ce que vous en avez pensé.
Bien sûr.
Allez, on se dit au revoir. Voilà, c'était le match retour du troisième film d'Alex Garland intitulé Men, simplement. Les hommes, ces sales hommes. Comme nous autour de la table.
Les beaux hommes.
On va se remettre en question, ok ?
Mais jamais !
Sale pervers narcissique, va !
Tu es toxique, Romain ! Smogo.
La semaine prochaine, écoutez, on ira faire un tour.
À Malte. J'ai hâte.
Le match retour de Jurassic World 3. Vous aurez l'épisode BA qui va suivre celui-là, évidemment. Où on va dire que du bien de cette nouvelle trilogie qu'on porte tous dans nos cœurs, évidemment, qui n'ont tâche en rien. Un grand film du cinéma, n'est-ce pas ? Et on reviendra en avis sur ce film-là. Et on peut déjà un peu vous spoiler, c'est un gros tas de merde. Voilà, restez avec nous. Retrouvez-nous évidemment sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes d'écoute. Ou bien si vous avez envie de centraliser la chose et de venir voir un peu à quoi ressemble notre site internet, c'est fetabea.fr. Tout simplement. Voilà. Des bisous les copains, merci pour ce petit débrief.
Merci à toi Romain pour ton analyse.
Merci à toi Romain pour être la personne que tu es.
Analyse de CE2 les gars, arrêtez un peu.
J'aimerais vraiment que tu puisses donner des sens à plein de toi.
Allez. Mais pas par la vulve.
Par le fion.
Oui.
Une petite note subtile.
Allez.
Parce qu'on a quand même fait ta BA.
Les hommes, les vrais. Allez, des bisous, ciao.
Allez, des bisous.
Arrivederci.